tous les musiciens vénéraient la noblesse de son jeu et de sa personne, la sûreté de son goût, son élégance intellectuelle, et enviaient sa passion, son feu intérieur, qu'il a toujours caché sous une austère apparence de protestant sorti d'un film de Bergman ou descendu d'une toile de Gréco. Voilà ce qu'écrivait le critique musical Jacques Drillon au lendemain du dernier récital donné par Gustave Leonhardt, considéré comme le plus grand claveciniste du XXe siècle, c'était en décembre. Un mois plus tard, le 16 janvier dernier, celui qu'on surnommait le pape de la musique ancienne disparaissait à l'âge de 83 ans. Il aura occupé une place à part dans le monde de la musique en ayant eu à cœur de retrouver l'art de jouer le répertoire de clavier d'avant Mozart. Grâce à lui, des œuvres perdues de Couperin, Rameau, Scarlatti ont été redécouvertes. Mais c'est avant tout à Bach qu'il aura consacré sa vie de musicien. Gustave Leonhardt est à l'honneur de cette deuxième partie. Bonjour Jacques Drillon.
Bonjour.
Vous êtes critique musical au Nouvel Observateur, vous êtes professeur, vous êtes également écrivain. En 2009, vous aviez consacré un livre à Leonhardt, sur Leonhardt, publié aux éditions Gallimard. À vos côtés se trouve Gilles Cantagrel. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table. Vous êtes musicologue, vous êtes écrivain, grand spécialiste de Bach. Il faut dire que Gustave Leonhardt considérait Bach comme le plus grand des compositeurs, et on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Et puis à vos côtés se trouve également Céline Frisch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes claveciniste, vous avez été formé à la Schola Cantorum de Bâle, par où était passé un certain Gustave Leonhardt 50 ans auparavant. Vous avez été l'élève d'Andreas Thayer. Gustave Leonhardt vous a dirigé, parce qu'il était également chef d'orchestre, oui, dans les enregistrements de deux cantates profanes de Bach avec votre ensemble, le Café Zimmermann. Première question pour vous, Jacques Drillon, puisque ce qu'on entend, c'est la 25e variation Goldberg. Il se trouve que c'est ça qu'il a joué en bis, en toute dernière partie de ce récital qu'il a joué au Bouffe du Nord à Paris, c'était le 12 décembre dernier. Il était très fatigué. Et puis après, dans votre papier publié dans le Nouvel Observateur, vous écriviez que vous aviez tous le sentiment dans le public qu'il faisait ses adieux au public, en fait, avec ce dernier récital.
C'est-à-dire que ça s'était su. Il avait dit au directeur du théâtre avant de jouer, ce sera mon dernier et après je vais mourir. Il était assez clair sur son destin. Et il a eu effectivement le plus grand mal à aller au bout de cette variation qui est la plus tragique de toutes et qu'il a tenu à jouer en bis alors qu'il était vraiment, oui, complètement épuisé, je crois. Et il n'y arrivait pas, c'était un moment un peu terrible de le voir terminer sur cette difficulté. Il aurait pu dire j'annule tout, le dernier récital que j'ai donné la semaine dernière à Rungis, auquel j'étais d'ailleurs aussi, était le dernier. Non, là, il avait annoncé celui-là, et il a tenu à le faire par une espèce de... comme ça. J'ai dit que je le ferai.
Donc après ce récital-là, et puis évidemment après sa mort, on a eu le sentiment d'une immense tristesse parmi tous les musiciens, et en particulier tous les musiciens baroques. Il était très aimé, très apprécié, Gilles Cantagrel.
Il était d'abord extrêmement impressionnant, surtout quand on ne le connaissait pas la première fois qu'on le voyait, cette espèce de réserve naturelle, sauf quand on regardait son regard qui était tellement vif. Et quand on le voyait vivre un peu, quand on a partagé un repas avec lui, c'était un tout autre homme. Mais oui, très impressionnant. Il y avait cette réserve, et quand il vous accueillait chez lui, dans cette maison qui était la plus belle d'Amsterdam, peut-être, dans un intérieur. On croyait entrer dans une peinture de Vermeer. C'était sobrement meublé et décoré, mais avec un goût, une qualité parfaite. Et il faut bien savoir que derrière cette apparence, en effet, de pasteur calviniste, se cachait un homme qui avait une intensité de vie extrême. Donc, pour cette raison, Je dirais qu'on l'admirait profondément plus que peut-être on ne l'aimait vraiment pour ce qu'il était.
Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il a tout de même fait un bien inouï. Enfin, je veux dire, c'est une bénédiction dans l'histoire de l'interprétation. Le nombre de choses qu'il a données aux musiciens, le nombre de voix qu'il a ouvertes. Enfin, à partir du moment où les hommes sont un peu humains, ils peuvent avoir au moins une certaine reconnaissance.
Oui, mais je voulais dire, enfin, globalement, il inspirait plus le respect et l'admiration, peut-être qu'une affection profonde ou un amour. Mais ce que dit Jacques Drillon est absolument essentiel. C'est toute la démarche intellectuelle, depuis qu'il était à la Scola Cantorum de Bâle, depuis son travail sur l'art de la fugue, toute cette démarche intellectuelle qu'on brocarde parfois en parlant de baroqueux, en disant même, je l'ai entendu dire par des responsables dans cette maison, mais c'est une mode, ça passera, il n'avait rien compris, a bouleversé non seulement l'interprétation de la musique baroque, mais de toute la musique. Cette exigence vis-à-vis des sources, vis-à-vis de l'instrument, vis-à-vis de la pensée du compositeur, a tout changé. On ne joue plus aujourd'hui Chopin comme on le jouait il y a 50 ans, parce qu'il y a eu cette véritable révolution intellectuelle qu'a imposée Gustav Leonhardt.
Céline Frisch.
Oui, bon, c'est effectivement une certaine évidence, mais en effet, autant que le répertoire, il y a effectivement la manière de l'aborder qui a en effet touché...
Et puis il n'a pas cessé d'enseigner, il aurait très bien pu ne pas enseigner par exemple. Il a eu quand même un nombre d'élèves absolument impressionnants. Donc c'est une espèce de démarche, de don constant. Mmh. Il donnait 150 concerts par an. Tout ça n'est pas neutre et plat. Enfin,
vous dites, Jacques Drillon, dans votre livre, qu'il a su faire entrer dans l'art de jouer la musique une qualité qu'on ne reconnaissait d'ailleurs qu'au créateur avant lui et qui, chez lui, s'est fait vertu cardinale, à savoir l'élégance. L'élégance dans le jeu, l'élégance donc, dans l'interprétation de la musique, l'élégance de l'homme également. Immense qualité qu'il avait.
Oui, l'élégance, je pense que c'est le terme juste parce que c'est un terme très paradoxal. Un vêtement élégant, par exemple, est un vêtement dont on ne doit pas remarquer l'élégance. Mais à partir du moment où on ne remarque pas l'élégance, ça n'est plus non plus un vêtement élégant. Donc il y a ces deux choses-là. Et je pense que, si vous voulez, il y a un axe sur lequel les musiciens se placent. On place un curseur comme ça. À gauche, il y a le trait sec, le trait métronomique, le trait où le musicien s'efface, il dit « je ne peux jouer que le texte », etc. Où on pourrait mettre quelque part par là, je ne sais pas, Scott Ross, par exemple. Et puis à l'autre bout de l'axe, vous avez l'expressivité maximum de quelqu'un qui veut s'exprimer lui-même à travers la musique et qui en fait des tonnes et qui se sent libre, etc. Où on pourrait mettre des gens comme Blandine Ranou plutôt de ce côté-là. Eh bien, on ne peut pas placer sur cet axe le curseur de Gustav Leonhardt parce qu'il n'est pas sur cet axe. Il a deux axes. Il a l'axe, effectivement, de la rigueur, on pourrait dire comme ça, et puis un axe d'extrême engagement. Et dans ces deux axes-là, il est au maximum. C'est-à-dire que c'est ça son élégance, c'est ça l'espèce de paradoxe, c'est que personne n'est allé aussi loin que lui, dans aucune des deux directions, mais lui est allé dans l'axe de la rigueur beaucoup plus loin que les autres, mais sans aucune sécheresse, et il est allé beaucoup plus loin que les autres sur l'axe de l'expressivité, sans jamais mauvais goût. Ce qui est un cas exceptionnel. C'est pour ça que le mot élégance me semble parfaitement bien trouvé, parce que c'est ce qui se passe avec un vêtement.
Rigueur, engagement, élégance, Céline Frisch.
Élégance, oui, c'est vrai que bon, je l'ai, à vrai dire, peu connu, c'est-à-dire je l'ai écouté en disque. J'ai couru l'entendre en concert dès que j'en ai eu l'occasion. Et après, donc, la seule rencontre véritable a été en fait à l'occasion de cet enregistrement et de cette tournée ensuite des cantates profanes qu'on a enregistrées donc, avec Café Zimmermann. Et c'est vrai qu'on avait une expectative énorme en tant que musicien de rencontrer l'homme, le musicien.
Le maître.
Le maître, en effet.
C'était un maître. Pour vous, claveciniste, c'était un maître.
Oui, claveciniste, un modèle. Je parle un petit peu au nom aussi de tous mes collègues, enfin, tous les musiciens de l'ensemble. C'est une question un petit peu d'où on sortait en tant qu'école. On était plus le côté latin, peut-être, des baroqueux, sortant de la Scola Cantorum, même si c'est la même école que Gustav Leonhardt. On n'avait pas forcément eu l'occasion de le rencontrer, de travailler avec lui. Et en effet, ce qui était assez frappant dans ce qu'il nous a demandé, c'était beaucoup une question de présentation, de politesse, de bon goût, encore une fois. Un des adjectifs qui revenait très souvent dans ses demandes, c'était de... Alors, surtout pas trop d'enthousiasme, mais agréable. Voilà, c'était un des mots qui est revenu le plus. On travaillait en français à l'occasion de ces répétitions. Et un des adjectifs qu'il a employé le plus quand il nous demandait de jouer, c'était agréable.
Et surtout pas trop d'enthousiasme.
Avec une certaine... Il avait tendance à freiner certains enthousiasmes rythmiques qui pouvaient nuire à... Voilà, une façon de poser et présenter chaque mesure. Oui,
et puis
qui est effectivement
une façon,
une certaine politesse, effectivement, je dirais aussi. Enfin, il y avait un petit peu cette oui, notion.
Et façon pour lui de s'effacer, puisqu'il considérait que l'interprète devait vraiment s'effacer au profit du compositeur, Jacques Drillon.
Ça, c'est une position de principe. Tout le monde le dit, et puis personne ne le fait.
c'est pas vrai, tout le monde ne le dit pas.
Même Horowitz disait, qu'il fallait s'effacer devant la partition. Mais bon, si vous vous effacez complètement, la musique n'existe plus. vous l'étouffez complètement. Non, si vous voulez, il y a une toute petite anecdote que je voudrais raconter et qui dit tout le personnage. Il aimait beaucoup les voitures rapides. Et il avait des Alfa Romeo. Et quand on lui a demandé pourquoi une Alfa Romeo plutôt qu'une BMW, etc., il dit parce que d'abord elles ont un beau bruit, première chose. Deuxième chose, elles sont racées et individuelles. Et puis troisième chose, parce que BMW, c'est vrai, avait un logo qui reprenait les couleurs de la maison de Bavière, mais Alfa Romeo reprend l'emblème de la famille Visconti du XVe siècle. Mmh. Et dans ces trois choses-là, le beau bruit, le côté individuel et racé, et puis l'allusion à la maison Visconti du XVe siècle pour sa voiture, c'est vraiment tout lui, c'est-à-dire une défense absolument farouche de l'individualité, le sens du beau qui lui sortait par tous les pores, enfin, et puis l'amour du passé, parce que ça n'était pas un nostalgique, qui est un sentiment finalement assez... stérile et inutile, enfin, qui ne vous porte pas très loin. Mais c'était l'amour du passé qui était tel qu'au contraire, il avait à donner, à recevoir, il y avait le mouvement de la vie qui se faisait avec le passé.
Un aristocrate, vous diriez, Gilles Cantagrel ?
Oh oui, ça... L'aristocrate de l'esprit. Mais ce que vient de dire Jacques Drillon sur l'élégance, à quoi j'adhère totalement, entre la rigueur extrême et la folie, il se situait non pas entre les deux, mais complètement au-dessus, il suffisait. Et ça, je le dis pour les auditeurs qui n'auraient pas eu l'immense bonheur de l'entendre en vrai et de le voir au concert. Son entrée sur la scène était sinistre. C'est une démarche noble, très réservé, presque. Il s'asseyait, il chaussait ses lunettes, il ouvrait sa partition. On se disait, mais que va-t-il donc se passer? Et là, c'était la folie. Donc, on avait à la fois la rigueur absolue et puis une imagination d'une totale liberté. On avait l'impression qu'il improvisait.
C'est-à-dire qu'il entrait sur scène comme dans un salon. Et d'ailleurs, oui, à la fin, il ne saluait pas, il s'inclinait, ce qui est tout autre chose.
Comme dans un salon, quand on est bien élevé.
Ah, oui, oui.
J'ai entendu, dans ma jeunesse, beaucoup de bonne musique. Mes parents, pas des musiciens d'ailleurs, adoraient la musique et jouaient eux-mêmes. Et moi, j'étais mis au clavier pour ajouter, jouer un petit continuo sur le piano forte au commencement. Mais aussi, bientôt, mes parents avaient un petit clavecin avant la guerre. C'est très curieux. Donc, j'ai entendu la belle musique toujours et aussi des concerts. Donc ça jouait certainement un très grand rôle, que j'ai écouté de la belle musique. Et pour moi, déjà quand j'avais peut-être 12 ans, pour moi, c'est Bach, c'est le comble. Mais dès que j'avais 15 ans ou 16 ans, ce petit clavecin de mes parents d'ailleurs m'a convaincu que ça doit être ça pour moi, hein, et plus le piano. Pour la musique ancienne, et pour moi, c'était très primitif. C'est blanc et noir seulement. Bach, c'est le comble. Et le pianoforte est mauvais, et le clavecin est bon. Hein. Et maintenant, en regardant cette période, ce petit clavecin de mes parents était un instrument atroce d'avant la guerre. Mais ça me touchait déjà.
On l'entend bien, Gustave Léonard. Le 1er juin 2008, sur France Musique, exprimait des jugements assez radicaux. Il disait d'ailleurs que de la 9e symphonie de Beethoven, par exemple, que c'était d'une vulgarité, cette ode à la joie, Jacques Drillon. Mais ce qu'on entend surtout, donc, c'est qu'il a découvert le clavecin. Ça n'était pas le premier instrument sur lequel il a joué. Il a commencé par le piano, il a continué par le violoncelle. Et puis, c'est vers l'âge de 15 ans qu'il est tombé sur ce clavecin et qu'il est tombé amoureux du clavecin ?
Bah, à cette époque-là, on pouvait difficilement commencer par le clavecin tout de même. Ce n'était pas un instrument très, très répandu chez les...
Il était né en 1928, hein, il faut le rappeler.
Oui, oui. Donc il a commencé effectivement en jouant du Schubert et du Schumann et du Debussy. Sa sœur raconte ça très, très bien. Il faisait du quatre mains, ils improvisaient à quatre mains tous les deux. Ce qui dénote quand même un certain talent et une certaine intimité aussi. Et donc, le fait est, déjà, c'est déjà extraordinaire que cette famille Léonard ait possédé un instrument à corde pincée qu'on pouvait appeler clavecin, entre l'épinette et le clavecin en tout cas. Et comme ça, ça n'arrivait à personne. C'est quand même tombé d'une manière absolument providentielle dans cette famille, cet instrument.
Alors, il étudie le clavecin et l'orgue à Bâle à la Schola Cantorum, où il rencontre un contre-ténor, Alfred Deller, qui a eu une immense influence sur lui. Gilles Cantagrel, Gustave Léonard disait que Deller lui a appris l'éloquence au clavecin et à l'orgue. Qu'est-ce que voudrait dire l'éloquence ?
Ah, mais on ne joue pas pour soi, on joue pour... pas forcément pour la personne qui est en face, on joue pour dire quelque chose. Cette musique-là, surtout chez Bach, mais ses contemporains, elle est avant tout rhétorique, elle est un discours dans les sons. Et si on ne prononce pas un discours, si on n'a pas cette vertu de l'éloquence, ça reste lettre morte, me semble-t-il.
Céline Frisch.
Oui, c'est en effet... Pardon, j'étais encore un peu dans la musique.
Dans la musique, c'est qu'on entendait, on entendait la messe en si hein, de Bach, et effectivement, on peut être vite plongé dedans. Donc, cette éloquence, c'est un mot qui peut vous parler en tant que claveciniste.
Oui, bien sûr, bien entendu. Puisque, bon alors, le clavecin, c'est un peu le paradoxe. On essaie de le faire chanter, ce qu'il ne sait pas si bien faire, mais on essaie malgré tout de le faire chanter. Mais on essaie avant tout de le faire parler, donc les questions de ponctuation, d'articulation sont primordiales. C'est d'ailleurs un de ces fondamentaux que Gustave Léonard nous a invités à revisiter quand on a travaillé avec lui. C'est vrai qu'il a beaucoup insisté aussi sur ces questions d'articulation, de prononciation. Et voilà, le texte avant tout, le texte au centre de tout.
Mais j'ai toujours trouvé, pardon, je vous interromps, j'ai toujours trouvé qu'en fait, plus que le chant, c'était la danse qui le motivait. Et il a une manière, enfin ça je suis sûr que vous, enfin il a une manière de chercher tout ce qui est dansant partout, que ce soit dans un prélude des fugues le plus abstrait possible, quand il y sent une trace de gavotte, une trace de menuet, dans une cantate de Bach, dans une sinfonia, il y a quelque chose de absolument dansant toujours.
Bah, ce sont toutes les matières de cette époque, on étudiait la danse, on étudiait la rhétorique, on étudiait le chant, on étudiait... Tout ça est effectivement très mêlé dans toute cette musique. Après, chez lui, alors, on était très étonnés aussi du fait que, quelque part, il ne dirige pas ou qu'il ne se préoccupe aussi peu du rythme ou du tempo, par exemple. C'est-à-dire que ces cantates, donc nous les avons enregistrées et après, nous avons eu une série de 4 ou 5 concerts, je crois. La question du tempo avait l'air un peu secondaire pour lui, quelque part.
Alors qu'au clavecin, il est connu pour la rapidité, non, la tonicité de son jeu.
C'est assez paradoxal. Enfin, on était assez étonnés parce qu'en fait, à la direction, quelque part, il n'avait pas cette préoccupation justement de diriger.
Mais j'ai parlé avec lui de ce disque il dit ça dépend de l'orchestre.
Tiens.
Alors, Furtwängler disait ça dépend comment ça sonne, ce qui était une bonne réponse aussi. Mais Léonard disait il y a des orchestres avec lesquels on peut aller très vite sans que ça devienne brouillé, d'autres qu'on doit ralentir, etc. Et moi, je me fonde sur ce que m'envoie l'orchestre. Et si mon tempo est différent ce soir, c'est parce que l'orchestre est différent, ou les chanteurs, ou je ne sais plus très bien.
Ce qui peut paraître étonnant, parce que le Café Zimmermann est réputé pour sa fougue, sa jeunesse, et effectivement, ce qu'on entend, on va l'entendre là, dans la cantate 30A, ce sont plutôt des tempi très lents. Thank you. exemple est mal choisi parce qu'effectivement là c'est beaucoup plus dansant que très lent. Mais de fait, sur ce disque-là, Céline Frisch, on a le sentiment d'entendre souvent plutôt de la lenteur que de la vivacité.
Oui, en effet.
Oui, oui, mais ça n'est pas une question de tempo. Vous avez bien dit la vivacité. La vivacité, ça ne se mesure pas avec un chronomètre ou avec un métronome. C'est de façon, Céline l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'articulation essentiellement. Il était rarement très rapide, mais il y a une vie intérieure qui éclatait tout le temps, même dans les mouvements lents. C'est ça qui nous intéresse. C'est là qu'est la musique.
Et on ressent le côté aussi contenu du clavecin appliqué à l'orchestre quelque part. C'est ça qui est assez étonnant. On a l'impression que ce modèle sonore ou ce modèle de contrainte qu'on intègre en tant que claveciniste, c'est-à-dire effectivement de ne pas pouvoir pousser les nuances, de ne pas forcément... Enfin, les limites de l'instrument qui donnent lieu, bon je ne m'exprime pas très bien, mais qui donnent lieu à cette esthétique du clavecin, quelque part vont être appliquées à son approche de l'orchestre. Où il va contenir effectivement certains élans, où il va peut-être mettre les choses en effet dans cette contrainte mentale qu'on intègre complètement.
Est-ce qu'en tant que chef d'orchestre, Céline Frisch, et claveciniste, il s'adressait à vous, par exemple dans l'enregistrement de ses cantates, de façon très particulière ou très précise ou très rigoureuse en tant que claveciniste?
Non.
Vous n'avez pas ressenti un regard particulier posé sur vous? Jacques Drillon.
Non, mais c'est très intéressant cette histoire, parce que le rapport qu'il fait entre le clavecin et l'orchestre, je veux dire qu'il part d'une certaine conception du clavecin. Et il sait que le clavecin est limité, donc cette limite, il faut la respecter. Il sait aussi qu'on peut aller très très loin à l'intérieur des limites du clavecin.
Et qu'est-ce que vous voulez dire, pardon, limites du clavecin?
Des limites fructueuses ou des limites...
Oui, exactement. Le fait qu'on ne puisse pas jouer fort ou doux, le fait que le son soit donné, il est toujours identique ou pratiquement toujours identique à lui-même en termes de puissance. Donc on va être obligé, lorsqu'on en joue, de chercher d'autres paramètres à faire varier, puisqu'on ne peut pas jouer plus fort ou plus doux. Alors donc on ne peut en réalité faire varier qu'un seul paramètre, c'est la longueur de la note. Et de ce point de vue, il est allé beaucoup plus loin que tout le monde, il a piqué beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il a raccourci énormément les notes, beaucoup plus que tout le monde, et il a aussi inventé une espèce de pédalisation au clavecin, c'est-à-dire que le clavecin ne pouvant pas tenir beaucoup, il n'y a pas de pédale, on ne peut pas tenir les notes, donc il tenait avec les doigts. Et il avait une véritable technique de pédalisation, comme un pianiste, il laisse traîner ses doigts, il laisse sonner la chose, parce qu'il faut que le clavecin résonne complètement. Et quand on écoute une sarabande à la française qu'il peut jouer, c'est extraordinaire, on a un effet orchestral. Et ça, il le transporte évidemment tout à fait naturellement, à partir du moment où il est chef, dans l'orchestre.
Et c'est d'ailleurs une technique que les organistes ont reprise à leur compte, avec ce qu'on appelle le surlegato. On tient une note alors qu'on attaque déjà la suivante, pour faire un effet polyphonique, même avec...
Oui, c'est extraordinaire, parce que justement, il passe, lui, pour un homme qui jouait sec et d'une manière tellement rigoureuse qu'il en devenait ennuyeux.
En même temps, il vous avait répondu, Jacques Drillon, qu'il n'avait pas le temps de prendre du plaisir en jouant, dans un entretien en 2007.
Non, mais ça, c'est une autre histoire.
Ah, un petit peu quand même.
Faire du plaisir. Mais quand vous avez quelque chose de très, très difficile à faire, vous le faites d'abord, et puis ensuite, le plaisir vient comme supplément d'âme. Mais il trouvait que c'était très, très difficile de jouer du clavecin. Il trouvait que c'était très facile de diriger, mais très difficile de jouer du clavecin. Donc, ça requérait absolument toute son attention et toute sa concentration.
Céline Frisch.
Oui, je disais, le claveciniste est aussi dans l'art de quelque part de pallier à une certaine abstraction, puisque quand il va jouer une note dans une polyphonie, cette note ne tient pas, elle s'éteint. Et en même temps, toute la polyphonie réagit à cette note qui n'est plus présente. Donc, on est dans l'art d'une espèce de construction qui n'est pas de l'ordre du son physique. Donc on est en train de construire, en effet, alors la longueur de la note joue, le moment où elle va venir aussi, on est toujours dans l'art de l'illusion. Et cette contrainte, en effet, si on fait un petit peu rentrer les violonistes quelque part dans cette contrainte-là, ça va forcément donner un autre résultat qu'un violoniste qui prend pleinement possession de tous les moyens de son instrument et qui va peut-être aller au-delà de ses limites qui en même temps sont fructueuses.
Alors, on parle beaucoup de Bach, mais il faut dire que, comme on l'entendait tout à l'heure, Gustave Léonhardt disait que Bach était le comble. Gilles Cantagrel, vous êtes un grand spécialiste de Bach. Question toute simple, qu'est-ce que, selon vous, Gustave Léonhardt a apporté à l'interprétation de Bach?
Il a apporté à peu près tout ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire une façon complètement nouvelle, plus réfléchie, en même temps plus instinctif aussi d'aborder la musique. Il a complètement changé l'art de l'interprétation à tous ceux qui l'ont entendu. Et maintenant, je dirais, on est dans l'ère de après Leonhardt maintenant. Et je me rappelle alors. À propos, il m'a appris, comme à tout le monde, tellement de choses, à propos d'un concerto, un triple concerto pour flûte, clavecin, violon et cordes, que Céline a enregistré d'ailleurs, comme le cinquième Brandebourgeois, la même formation. Et bon, on n'a pas le manuscrit autographe, on se demande s'il est vraiment de Bach, il y a des thèmes de Bach, on reprend des morceaux antérieurs avec des développements un peu différents. Et bon, les musicologues en débattent. Et j'en avais parlé à Gustave Leonhardt qui m'a dit cet argument irrésistible, il m'a dit ça ne peut pas être de Bach. Lui-même, d'un élève, sans doute, de Mutel, sans doute, mais parce que ça n'est pas dans la main comme du Bach. Et ça, pour moi, les musicologues ont tellement à apprendre des artistes. Ça, vous savez, il y a la main de Beethoven, il y a la main de Schubert. Ça n'est pas, je ne sens pas la main de Bach quand je joue cette œuvre. Je ne sais pas ce qu'en pense Céline.
Céline Frisch.
Qui l'a joué.
Disons que je suis un peu surprise parce que l'essentiel de la pièce consiste effectivement en œuvre identifiée de Bach.
Oui, il n'a pas dit que ça n'était pas de Bach. Il a dit réalisation écrite aurait pu être. Bon,
alors, la main, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est la main du clavecin. Puisque pour le claveciniste, jouer la fantaisie et fugue ou jouer le concerto, c'est assez proche. Il y a effectivement des petits interludes d'orchestre où on joue le continuo, mais sinon la composition pour le claveciniste est quasiment la même.
Oui,
c'est vrai que les parties d'orchestre, notamment dans le troisième mouvement, sont assez surprenantes. Pour moi, ce serait plus une question d'écoute, mais
alors
la main du compositeur, mais pas la main du claveciniste.
Il a enregistré l'intégrale avec Nicolas Arnoncourt des cantates profanes. Il a également enregistré le clavier bien tempéré. Il a enregistré la passion selon Saint Matthieu. On va l'entendre dans le clavier bien tempéré. Gilles Cantagrel, est-ce que vous parleriez d'une constante dans son jeu, ou d'ailleurs Céline Frisch ou Jacques Drillon, je m'adresse à vous, mais ça peut être effectivement aux deux autres, ou est-ce qu'on peut constater en 50 ans de musique quand même une formidable évolution de son jeu, de son style? Jacques Drillon.
C'est devenu instinctif, c'est-à-dire qu'il a énormément appris pendant très longtemps, il a travaillé, et puis il est arrivé un moment où il n'avait vraiment plus besoin, même pour soigner le plus minuscule détail, de travailler le moins du monde, et donc, il y a une espèce de liberté qui se met dans son jeu petit à petit, qu'il n'y avait pas au début, c'est incontestable. C'est allé très vite, c'est allé étonnamment vite. On peut dire que presque dès le début, il est là, mais tout de même, il faut attendre quelques, 10-15 ans. Et à ce moment-là, et d'ailleurs, il y a un fait qui prouve ça, c'est que quand il enregistrait, alors qu'on a l'impression que tout est ciselé, une sorte de travail d'orfèvre où chaque longueur de note est parfaite, etc., que l'articulation est calculée, il faisait deux prises. Il faisait une première prise, il y avait deux, trois fautes, il en faisait une deuxième pour corriger la première, et puis il s'en allait, c'était fait. Il n'était plus temps de travailler. Et donc, c'est un petit peu comme ces vieux violonistes de quatuor, par exemple, Norbert Breinin, par exemple, avec le quatuor Amadeus. Quand on a 65 ans, qu'on a joué les quatuors de Beethoven toute sa vie sans faire jamais une faute de goût, après, le goût vous tient lieu de morale. Vous n'avez plus besoin de réfléchir et de choisir et de décider. Ça sort naturellement, correctement. Et c'est ça qui lui est arrivé à Leonhardt. Et donc, très vite, c'est une espèce de naturel tel que tout ce qui sortait de ses doigts était à peu près dans le moule, comme il fallait.
Et c'était aussi comme à l'époque,
comme il le voulait.
Et il le voulait au plus près des techniques de jeu de l'époque,
On s'en fiche, si l'époque n'a pas correspondu à la manière de Leonhardt, tant pis pour l'époque.
C'est pas grave.
C'est vrai, vous êtes d'accord, Céline Frisch et Gilles Cantagrel?
Mais alors, cette faculté-là s'étendait à ses partenaires. Je l'avais un jour dit, mais à quel point j'étais admiratif de je ne sais quel concert qu'il venait de donner avec une entente, avec les frères frères Koeken ou avec Franz Bruggen, par exemple. Je lui dis, mais vous avez dû travailler énormément. Il dit, mais non, pas du tout. C'est exactement ce que dit Jacques.
Ils arrivaient dans l'après-midi, puis ils jouaient le soir, et voilà.
Et oui.